Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Salut à tous, c'est le gourmandas. Sur Radio MDM, bien sûr, 93.8 Banos, Chalosse-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan. Alors bien sûr, à cette époque magnifique, nous allons parler naturellement de choses gourmandes, de repas de fête notamment. Alors nous nous sommes cantonnés plutôt au repas de Noël, qui est le repas festif d'ordre plutôt familial, alors que normalement le repas de fin d'année est plutôt le repas des copains. Donc pour ce repas de fête familial, j'ai commencé par vous proposer comment l'envisager, et en parlant de menu, en parlant de plats bien sûr, en parlant naturellement aussi de boissons qui accompagnent tout ça. Alors pour moi, le repas de Noël, les repas de Noël, les repas de fête de Noël, ce sont d'abord le repas de la veille de Noël, qui commence par le fameux rituel, bien sûr, gascon, du Hall de Nadal. Le Hall de Nadal, c'est ce feu que, à l'intérieur de toutes les fermes, nous faisons à la tombée de la nuit du 24 décembre pour fêter le solstice d'hiver, naturellement, donc pour certaines d'origine chrétienne, je crois plutôt d'origine païenne, mais bon, peu importe, que chacun le mette à son compte, le prenne à son compte, c'est pas très grave. En tout cas, on commence par ce fabuleux feu où se réunissent tous les convives autour du feu, avec quelques phrases qui sont prononcées comme une forme de rituel, et la plus connue étant donc « Hail de Nadal », « La tripe au pau », « La poule au tuping », »,« Le porc au saling », Hail de Nadal d'un cadouman matin, ce qui veut dire feu de Noël, le boudin au pot, la poule au pot, donc le porc au sel bien sûr, puisqu'on faisait saler notamment toute la viande pour la conserver, et essentiellement naturellement les jambons. Et donc Hail de Nadal d'un cadouman matin, ça veut dire qu'on mettait dans le feu, dans la grande cheminée, dans le grand âtre, une souche d'arbres énorme qui, de façon la plus incandescente qui soit, devait durer jusqu'au lendemain matin. Alors ce Hail de Nadal était aussi parfois partagé avec des voisins, notamment en cas de deuil, on faisait le Hail de Nadal à la frontière d'une parcelle de la propriété du voisin ou de la métairie du voisin. Et voilà, on le faisait aussi naturellement dans le quartier pour avoir l'occasion de boire un bon verre, ce que nous maintenons toujours. Voilà, autour de chez moi à Bacotte, sur la colline, à la tombée de la nuit, tout le monde allume son feu, c'est une espèce de concours, bon bien sûr sans récompense, de concours de plaisir, pour allumer le feu et faire avoir que nous sommes tous en train de continuer, de maintenir cette belle tradition du Hail de Nadal, qui est le solstice d'hiver. Donc une fois passé ce feu, pouvons-nous remettre au chaud? Bien naturellement, on va préparer le repas de la veille de Noël, quelque part, de la grande fête de Noël, de la grande journée festive. Donc ce repas, il se veut quand même assez léger pour pouvoir se maintenir sur la durée, il faut naturellement faire alléger. Donc l'apéritif plutôt de l'ordre de crémant de Bordeaux, par exemple. Bon, moi j'ai une option pour l'Athéron, qui est naturellement le plus grand crémant de Bordeaux, propriétaire de Saint-Émilion, mais qui produit 1 800 000 bouteilles de crémant de Bordeaux par an, de nombreuses fois primées devant plein de champagne. Donc après cet apéritif au crémant, quelque chose qui est plus titré sur la mer, je pense par exemple à un plateau de fruits de mer pour les plus gourmands, pour les plus chanceux, ou des coquillages divers. Ce sont des huîtres, ce sont des crevettes, des bulots, des bigorneaux, enfin toutes sortes de produits frais que nous pouvons consommer avec un avantage énorme, c'est que le repas peut durer autant que nous le souhaitons et commencer aussi tard que nous le souhaitons si le feu n'est pas éteint. C'est tout simplement donc l'avantage de pouvoir faire plusieurs étapes dans le repas, puisque le plateau de fruits de mer par exemple ou les coquillages, ça ne refroidit pas, donc c'est plutôt l'avantage. Donc profitons aussi de la saison pour consommer de belles Saint-Jacques. C'est la pleine période, le problème un peu c'est le prix, donc voilà, à voir, peut-être qu'il faudra en consommer un peu moins que d'habitude. Je vous donnerai personnellement une recette que moi j'utilise, que j'aime beaucoup, qui est très simple, donc faisable pour tout le monde. en parlant d'amuse-gueule, bien sûr, de plats qui peuvent continuer ce repas, ce sont des plats de saumon, par exemple, le saumon ou la truite fumée, mais aussi le ceviche de poisson, quelque chose d'assez facile à réaliser, donc de poissons coupés en petits menus morceaux et qui sont cuits simplement dans le citron vert, dans le gingembre, avec de la coriandre, avec du fenouil, enfin des choses qui peuvent être après distribuées sur des toasts et ou des canapés, donc faire une espèce d'apéritif dînatoire extrêmement sympathique, dans toujours l'objectif majeur de viser la légèreté pour quand même rester en forme pour le lendemain. Donc ça veut dire que si on boit des vins, et on en boira forcément dès que le moment se trouve être convivial, après le crémant, moi je pense plutôt à un blanc léger si on est sur le poisson, naturellement, un rouge léger si c'est plutôt des toasts à la viande ou avec une viande assez légère, ou même des toasts avec des charcuteries. Donc concernant les blancs, je pense plutôt en entre-deux-mer, je pense en jurançon sec. Pourquoi pas des viogniers qui aujourd'hui sont traités par des viticulteurs en direct, sans atteindre le fabuleux Condrieu, bien évidemment. Donc des viogniers du sud-est très, très agréables, très fruités, et qui sont quand même des vins relativement légers. Concernant les rouges, ben moi, là, je n'ai qu'une seule région qui va me permettre de passer le cap tranquillement, c'est-à-dire de pouvoir boire quelques bons coups sans être trop assommé. C'est plutôt les rouges de Loire du côté de Chinon, de Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, éventuellement quelques gamets frontaliers, mais surtout, toute la région des Bourgueil, des Rouges de Loire. Donc, restons en forme parce qu'il y a une règle essentielle pour avoir les papilles fraîches pour le repas de Noël, qui va se décomposer en des entrées majeures et un plat principal à base essentiellement de viande ou de volaille et de différentes viandes très festives. Moi, je pense qu'il faut être toujours, c'est le grand moment de réaliser la journée en famille, donc sur les produits d'exception, il faut aller dans une région comme la nôtre vers des produits d'exception. Donc le grand repas de Noël, il se fait avec des ingrédients frais et bien sûr naturellement de saison, ça va de soi. Évidemment, article majeur autour du foie gras, le foie gras qu'on peut consommer, c'est à mon avis souhaitable, au naturel, avant tout bien sûr, foie gras entier au naturel. Pour ma part, je le consomme en petite quantité. Je ne veux pas me rassasier de ce plat qui reste très festif. Je l'aime bien gras, bien beurreux. Je veux dire que pour moi, il y a une différence entre le foie d'oie et le foie de canard. Sans comparer les deux, puisqu'il ne s'agit pas du tout du même produit. Concernant le côté gras, je dirais, mais c'est très prétentieux et ça ouvrira le débat, que l'oie, pour moi, est le seul être vraiment gras. Donc quelque chose qui n'est pas forcément axé sur le goût fort et sa force, mais sur l'onctuosité, sur la suavité, quelque chose qui vous tourne en bouche un peu comme du beurre et qui se fond tout d'un coup. Et ça, pour moi, il n'y a que l'oie qui peut le réaliser. Mais bon, ça n'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'aimer le canard, loin de là. Le foie de canard peut être très bien aussi. Il est naturellement plus fort en goût, donc plus facile à approcher que l'oie. Et bien sûr, il fera le bonheur de tout le monde, et surtout qu'ici, on peut en trouver encore du très bon. Alors bien sûr, le foie au naturel, le foie confit, ça va de soi, vous allez consommer ça assez facilement, c'est très facile à préparer, très facile à mettre sur des toasts, à manger dans une assiette, pour lui-même, avec du très bon pain. Et ensuite, naturellement, le foie, on peut le manger aussi frais, c'est-à-dire en escalope, des escalopes fraîches que vous allez poêlé, dans un peu de beurre par exemple, et donc que vous allez associer avec, une fois qu'il est tout roux, tout doré, avec des pommes, avec des figues ou avec des raisins. Moi je conserve pour ce faire, pour ce plat, des raisins de ma petite vigne qui est sur ma treille le long de mon mur, des raisins de muscat italien, qui n'a pas de pépins en plus, mais bon, qui est un raisin très doux, très concentré en sucre. Et j'en ai aussi, plus maintenant le souvenir, parce que j'en ai plus beaucoup, mais j'utilise aussi un raisin qui s'appelle le Roumanie doré, originaire de la région de Banyuls, très très doux, très équilibré, qui personnellement, je trouve, va très très bien avec le foie frais. Donc des escalopes, à vous de poêler légèrement, de faire dorer, bien dorer. Il faut lui garder à la fois le côté tendre à l'intérieur et à la fois le côté un peu croustillant dessus, à l'œil, vous verrez que ça n'est pas si compliqué que ça à réussir. Alors, en s'y prenant à l'avance, bien évidemment, on peut aussi réaliser pour le foie gras une terrine de foie gras frais, quelque chose que vous pouvez mettre après l'avoir dévené ou pas forcément d'ailleurs, mais bon, le mieux c'est quand même pour les amateurs de dévener le foie, donc d'enlever la grosse veine en la tirant avec la main et au fur et à mesure en dégageant avec le doigt sur la chair du foie, sur les deux lobes du foie, on arrive à enlever le plus gros de cette veine qui peut donner un côté un peu sanguinolent. Donc une fois que vous avez mis ça, vous remettez votre terrine que vous salez poivrée, que vous allez couvrir d'un petit peu d'un vin liquoreux, peut-être pour certains une goutte d'alcool, que vous allez mettre, couvrir avec un papier d'alu, mettre dans une terrine au bain-marie. Voilà, donc vous trouverez les recettes un peu partout, hein, assez facile à faire. Cette terrine que vous allez cuire, vous allez ensuite la mettre dans votre réfrigérateur. Elle peut se conserver assez longtemps, 3 semaines, 1 mois. Donc on peut, l'avantage c'est de pouvoir aller y piquer dedans quand on le souhaite pour se faire plaisir. Et à la limite, plus elle reste et mieux c'est, puisqu'elle va prendre les épices. C'est quelque chose qui permet d'avoir un plaisir quasi constant et quasi égal avec le même produit. Ensuite, bien évidemment, si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez du foie gras en conserve. Dieu sait si dans la région, nous devons en trouver. Voilà, il y a différentes maisons, des grandes, des petites. Chacun a ici un peu son partenaire pour Noël, si j'ose dire. Le foie gras en conserve abonde. Il est l'apanage de certains producteurs qui mettent un peu plus de temps à élever leurs animaux, donc qui parfois auront des produits un peu différents. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à aller chez les gens surtout, aller chez les producteurs. Voilà, et retenez vos foie gras pour avoir des produits de belle qualité en conserve. Ils en font toute l'année pour vous le vendre en fin d'année. Donc n'hésitez pas, vous trouverez tout ce que vous voulez et c'est très facile à trouver. Concernant les toasts d'apéritif, bien sûr, on peut faire naturellement un tas de choses qui sont très sympas. Moi, deux recettes qui sont faciles à faire, que je n'hésite pas à recommander, sont des roulés au foie gras. Ça, c'est assez facile à faire. Vous trouverez des recettes un peu partout, dans les bouquins de tous les cuisiniers de la région, des bons cuisiniers, mais aussi directement sur Internet. Ainsi que quelque chose de simple, mais de très bon comme amuse-bouche, c'est la crème brûlée au foie gras. Alors ça, c'est très intéressant pour les textures mélangées et pour relever quelque chose qui a un petit côté sucré qu'on va laisser de côté pour un côté un peu plus terre, un peu plus fumé, vous allez voir, qui est très sympa. Donc la crème brûlée au foie gras qui fait ce produit et se prépare dans des petites ramequins, quelque chose de vraiment qui va épater vos convives pour vous faire plaisir. Donc le foie gras, bon, je n'avais pas besoin de vous en parler, c'est facile. Néanmoins, il y a des milliers de recettes, naturellement, pour pouvoir se régaler avec. Alors, quand on n'est pas autour du foie gras dans ce grand repas de Noël, très souvent, on est autour de la mer, bien évidemment. Donc, moi, j'ai une recette très simple. C'est une recette à partir des Saint-Jacques, qui peuvent se préparer dans une coquille, avec des légumes, avec de la béchamel, avec une fondue de poireau, d'oignon, et de la béchamel par-dessus. Bon, ça n'est pas trop, c'est très agréable, ça fait un très joli plat, c'est très consistant, ça tient au corps. Moi, personnellement, ça n'est pas mon choix. Mon choix, il est beaucoup plus simple que ça. Pour moi, il faut préparer une petite compotée d'oignons frais et de poireaux que vous allez tailler très fins, que vous allez poêler tout doucement au beurre pour ne jamais les faire sécher ni les faire brûler. Il faut simplement les faire fondre, les faire dorer. Quand vous avez réalisé cette petite fondue, vous mettez un peu de beurre, une noisette de beurre dans votre poêle et vous passez vos Saint-Jacques un peu saisis de chaque côté, environ 1 minute 30, 2 minutes maximum. Et vous allez voir que vous allez obtenir ces Saint-Jacques fraîches sur votre compoté. C'est une pure merveille. Voilà, donc pas de choses compliquées, des choses simples. Et pour trouver le goût principal, n'oublions pas que l'édifice principal, nous ne sommes pas les Chinois ou les Japonais, ça n'est pas encore l'architecture, mais plutôt, le goût, un édifice gustatif. Eh bien écoutez, avant de parler de plat principal, je vous invite à faire une petite pause musicale.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. fiesta que tengo la yegua, la tengo, la yegua, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo.
Salut, c'est Lou Gourmandas, vous êtes bien sur MDM 93.8 Saint-Sevé, Châlons-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan. Bon, après toutes ces entrées magnifiques de ce repas principal de Noël, on va rentrer maintenant dans le plat principal, donc vraiment, à franchement parler. Donc un plat que nous allons constituer avec des choses extrêmement traditionnelles, certes, mais incontournables. Je parle bien sûr naturellement en priorité des volailles festives. Donc les volailles festives, on va ranger là-dedans le chapon fermier, la poularde fermière, la dinde, l'oie à rôtir, l'écaille et bien sûr ici naturellement le canard, c'est incontournable. Donc concernant le chapon, ce très très bel animal issu d'un poulet fermier préparé et castré, nous allons avoir une volaille entre 4 et 6 kilos, quelque chose de magnifique, donc une énorme pièce qu'il ne faut pas louper et pour laquelle des règles de cuisson, de préparation et surtout de cuisson sont impératives. Donc concernant le chapon, ben on peut évidemment le farcir. Donc si on parle de farce, on va en parler pour un peu tous ces animaux dont je viens de vous parler, toutes ces volailles fermières. Une farce, pour moi, c'est une farce avec les abats des animaux et avec environ 3 viandes, moi je préfère comme ça, c'est-à-dire le bœuf, le porc et le veau. Donc une farce relativement écrasée, relativement onctueuse que nous allons associé avec les abats, notamment le foie bien sûr, du chapon et le gésier. On va introduire cette farce à l'intérieur de la volaille avant de la recoudre, bien sûr, naturellement. Le chapon est donc fermé. On va le mettre, alors on pourrait pour certains, c'est le cas dans les volailles de Bresse par exemple, le serrer en force, c'est vrai aussi pour la poularde, pour la dinde, le serrer en force dans un drap, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui permet d'obtenir une contraction donc des chairs. Le chapon est parfaitement rond, c'est très très beau, et avant de sortir et de le mettre au four. Alors pour le mettre au four, une fois qu'il est farci, mais on va lui mettre sur sa peau, tout autour, un peu de graisse d'oie, ça va de soie ou de canard, très peu, mais il en faut quand même un petit peu, un tout petit peu d'eau au fond du plat, et on va mettre ce plat, ça c'est très important, dans le four froid. Et ensuite, amener le four à environ 180 degrés, 170, 180 degrés, pour plusieurs heures de cuisson, on peut compter jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie de cuisson pour un gros chapon, afin qu'il ne soit pas saisi sur la peau et que la chaleur rentre à l'intérieur des chairs. C'est une volaille magnifique, il faudra la tourner, il faudra l'arroser tout le long de la cuisson, éventuellement se prévoir un jus à base des glaçages que vous allez faire au fur et à mesure du fond du plat. Donc vous verrez, récupérer pour arroser, 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 n'hésitez pas. Ce chapon, c'est une chair extrêmement subtile, mais c'est une très grosse pièce, donc afin qu'elle ne soit cuite, il faut quand même un certain temps, et il ne faut pas la brûler, certainement pas. Donc après le chapon, un peu la même recette pour la poularde, moi j'ai même un faible pour la poularde, pourquoi ? Parce qu'elle est un peu moins importante que le chapon en taille, mais à mon avis, elle est un peu plus grasse. Elle va avoir, avec l'engraissement qui permet de lui donner tous les jours du pain trempé dans du lait, une pellicule blanche qui va se coller entre la peau et sa chair et qui va nourrir cette chair pendant la cuisson. Quelque chose de magnifique, quelque chose de tendre. Alors la poularde de Bresse, eh bien, c'est l'exemple pour tous, bien sûr. Donc on a un peu le même modèle ici avec dans le Gascon. On peut, pareil, enserrer dans un drap en force cette poularde et la sortir au dernier moment pour la cuire avec la même farce, bien sûr. Hein. La cuire au four, même principe, dans le four froid. Arrosé. Pour moi, c'est l'une des chairs les plus fines que nous puissions trouver actuellement, la poularde. Ensuite, bien sûr, c'est la dinde, mais officielle donc de Noël, la dinde. Aujourd'hui, on peut encore trouver, heureusement, de belles dindes, de dindes fermes, bien sûr, et pour la différencier de la dinde industrielle, et surtout pas de la dinde américaine, bien évidemment que non. Hein. On n'est pas dans le Thanksgiving, donc une belle dinde, bien sûr, naturellement, avec des marrons, bon, comme accompagnement, parce que c'est la dinde au marron, c'est le plat traditionnel par excellence, quelque chose qui est très bien, même principe de la farce. Alors là, on peut intégrer dans la farce les marrons, que moi, je n'intègre jamais pour le chapon ou la poularde, mais qu'on peut faire aussi. Hein. Donc, dans la dinde, une farce à la viande et au marron, et qu'on servira après les marrons tout autour du plat. Donc, une dinde qui peut permettre de nourrir 8 à 10 personnes aussi, puisque c'est quand même quelque chose d'assez grand, de très fin, si c'est bien fait. Donc, attention pour en trouver, parce que c'est difficile de trouver de la belle dinde. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements et aller voir des producteurs aussi, si vous en trouvez dans le secteur. Donc, la dinde, même cuisson, même type de cuisson que la poularde, que le chapon dans le four froid. Ensuite, mais différent, totalement différent, quelque chose de doux, avec une chair légèrement sucrée, c'est l'oie à rôtir. L'oie à rôtir, c'est plutôt l'oie de Guinée, ici dans la région, donc une oie longue et filée, plutôt maigre, qui a ce goût très doux, un peu sucré, de chair, et qu'on va rôtir en faisant doucement, pareil, en l'arrosant beaucoup dans le four froid, qu'on peut accompagner aussi de marrons, mais de plein de légumes différents. Et l'oie à rôtir, c'est aussi l'oie du Rhin, l'oie de Reims, qui sont encore deux catégories différentes, qui sont plus rondes, plus grasses, et une cuisson un peu différenciée par rapport à l'oie de Guinée qui est plus sèche, donc il faut maîtriser un peu plus la cuisson, beaucoup l'arroser pour l'oie de Guinée. Les autres pourront être un peu moins arrosées, mais il faut quand même faire attention. Très très intéressant, donc ça va vous changer, permet d'avoir un produit complètement différent pour Noël et qui va vraiment ravir tous les convives parce que c'est vraiment délicieux. L'oie à rôtir. Alors bien sûr, naturellement, j'ai fait ça une année en 2019. L'écaille, si vous en trouvez de belles, alors aujourd'hui, voilà, il y a dans la région de belles cailles, plutôt les cailles fermières qui sont élevées un peu dehors, qui ont volé un peu. Vous verrez, dans tous les cas, même la caille qui n'a pas à voler, c'est pas grave, elle est très tendre. C'est quelque chose de très, très, très délicat, qui se farcit avec un ou deux grains de raisin, avec de la pomme, mais surtout des raisins. Voilà, vous allez voir quelque chose de délicieux. On fait un jus de fond de volaille pour la cuire et on la cuit tout doucement au four. Là, vraiment très doucement parce que c'est une volaille qui est extrêmement douce, donc qui va être très vite cuite. À surveiller pour ne pas trop la cuire et à sortir dès qu'elle est un peu dorée parce que vraiment c'est un plat d'une très grande finesse qui mérite le détour. Donc l'écaille rôtie et ensuite, bien sûr, naturellement, autour du canard. Le canard, bon, ici dans la région, c'est l'élevage roi, donc on peut trouver ça assez facilement. Je pense bien sûr à la côte de canard ou à la même chose comme chair, le magret, mais qui n'est pas servi avec la partie os, un peu comme une entrecôte ou une côte à l'os. On dit que la viande à l'os est toujours meilleure. Je pense que ce n'est pas totalement faux. En tout cas, si vous faites du magret de canard, pour moi, la meilleure des façons de le faire, c'est encore au barbecue. Alors bien sûr, c'est un peu embêtant quand on a des convives hein, de se mettre au barbecue, mais c'est peut-être aussi l'occasion de boire un verre un peu tous autour. Et le magret de canard au barbecue, pour moi, il se met du côté de la chair pendant 5-6 minutes avec une braise un peu chaude, assez chaude, pour le cicatriser, que les jus par la suite restent à l'intérieur. Ensuite, j'entaille le côté peau pour y mettre l'imprégner de gros sel, que je fais tomber ensuite pour l'essentiel, qui empêche une partie de la peau de s'enflammer par la suite. J'attends que ma braise soit bien blanche, et là je colle quasiment, côté peau, après les 6 minutes de cuisson côté chair, mon magret sur la braise, au plus proche de la braise, de sorte qu'il produise beaucoup de fumée, mais ne s'enflamme pas. Et là, petit à petit, cette chaleur va nourrir la peau, cette peau très grasse, qui va nourrir aussi la chair, amener des sucs très 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 intéressants. Et jusqu'à la réduction maximale de cette peau grasse, vous obtiendrez à ce moment-là, en regardant, hein, avec le tranchant, un magret parfaitement rouge, parfaitement rose, suffisamment cuit mais pas trop, avec un goût absolument inimitable et introuvable ailleurs, croyez-moi. Vous pourrez le faire par toutes les méthodes que vous voudrez, jamais vous ne trouverez ce parfum de magret, à la fois fumé et à la fois cuit à la braise, quelque chose de très 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 puissant et superbe, qui permettra les meilleurs accords. La cuisson, bien sûr, bon, je vous l'ai dit, concernant les autres volailles au four, ben, c'est le four froid, c'est de la basse température, et c'est en arrosage permanent, n'oubliez pas cette règle de base, elle est très, très, très importante. Alors, bien sûr, bon, le plat principal, ça peut être naturellement des volailles festives en priorité, mais bon, c'est aussi l'agneau ou le chevreau, c'est aussi le bœuf, c'est aussi des gibiers auxquels on peut penser pour ce moment. On va pas s'y attarder trop, mais pour mémoire, l'agneau, c'est le carré de côte, bien évidemment, quelque chose qui est super beau, qui se cuisine avec des amandes, avec des figues. C'est l'épaule d'agneau, morceau majeur, chouchou de Michel Guérard. C'est aussi un gigot, naturellement, qui sera plus gras, plus gros, mais sur lequel on aura beaucoup plus de viande si on a un grand nombre de convives. Et naturellement, bon, quelque chose de très très fin. Concernant le chevreau, si vous le pouvez, c'est plus fin que l'agneau pour moi, c'est moins gras. C'est quelque chose d'extrêmement subtil, un peu plus difficile à trouver ici. L'agneau, donc naturellement, n'oubliez pas l'agneau pour vos fêtes. Le bœuf, ben, c'est très simple, c'est plutôt le filet, dans le filet ou de la côte, naturellement. Là, c'est le retour au barbecue, la saisir de chaque côté, la viande, pour qu'elle garde son moelle à l'intérieur, bien sûr. Et le gibier, ben naturellement, bon, on va pas en parler aujourd'hui, on en a déjà parlé la dernière fois, mais la palombe, bien évidemment, du chevreuil, du sanglier, que nous trouvons en masse dans la région, sans aucune difficulté. Bon, voilà, c'était au cas où quelques rappels ou idées pour ne pas se jeter sur le plat prêt à cuire, sur les plats déjà fabriqués, et pour trouver la joie légitime à faire par soi-même et à faire partager naturellement. Donc, quand on vit dans une région comme la nôtre, hein, il faut passer le pas. Soyez curieux, allez découvrir dans les fermes, dans les magasins spécialisés, dans les épiceries fines, ce contenu, de quoi, bien sûr, naturellement émerveiller vos convives, mais surtout vous faire plaisir. Il faut le faire une fois par an au moins. Évitez, bien sûr, toutes les charcuteries roses qui encombrent l'entrée des grands magasins et des promotions. Évitez les produits industriels, largement salés, sucrés, etc., et conservés. N'oubliez pas que ce moment est unique pour partager de belles et bonnes choses, que votre curiosité va payer, bien sûr. Allez chercher de bonnes choses, même s'il faut faire à plusieurs visites de sites et non pas se garer au même endroit. Alors, bien sûr, bon Noël, et n'oubliez pas la Heidenadau. Même avec quelques cartons, s'il pleut trop, ça fera quand même l'affaire. À bientôt sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.